Ils représentent les premières traces de notre présence sur Terre. Ce sont les déchets que nous éparpillons aux quatre coins du globe. Ils sont en effet partout, enfouis sous terre ou naviguant sur la surface des océans. Ils symbolisent la transformation de notre planète en une poubelle géante, à tel point que nous vivons aujourd'hui une crise du déchet unique en son genre. Alors que le Mucem de Marseille propose en ce moment l'exposition Vie d'ordure, le chercheur Baptiste Mont-Saint-Jean publie Homo Detritus aux éditions du Seuil pour nous interpeller sur notre société du déchet. Il est mon invité dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une bonne nouvelle pour les travailleurs dauphins et orques qui bossent en France.
Et donc une mauvaise nouvelle pour les parcs qui présentent ces animaux au public, puisque l'arrêté ministériel validé hier et qui vise à améliorer leurs conditions de captivité signe à long terme la fin de cette pratique. En tout cas, c'est l'avis de notre invité, le vétérinaire Claude Beata.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui cette Tête au carré.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Homo Detritus, une critique de la société du déchet aujourd'hui dans notre dossier avec vous, Baptiste Mont-Saint-Jean. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on connaissait l'Anthropocène, cette période géologique qui marque l'impact de l'homme sur la nature. Vous, vous proposez plutôt que l'on parle du Poubellocène. On vit quoi en ce moment dans le poubellien supérieur, c'est ça?
Oui, c'est une sorte de trait d'esprit pour reprendre un trait d'humour qui a été fait par des géologues dans les années 70, précisément autour de cette distinction entre poubellien inférieur, un monde sans plastique, et le poubellien supérieur, un monde avec plastique. Alors, à l'heure de l'Anthropocène, pourquoi pas parler de Poubellocène, effectivement.
Ouais, et ça montre l'ampleur du phénomène.
Une ampleur globale, effectivement, sur tous les continents, dans tous les océans. On a des traces de nos présences détritiques partout. Ouais.
Et c'est un livre qui raconte, entre autres, cette histoire des déchets, hein, depuis notre sédentarisation jusqu'à aujourd'hui, et la façon dont on prend en charge, justement, ce problème. On en discute dans un instant autour de cet ouvrage Homo Detritus et avec les messages des auditeurs. Les dauphins et les orques peuvent espérer voir leurs conditions de vie de captivité en captivité s'améliorer en France, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Mais ce qui captive le plus, ce sont les dauphins. Que certains vont avoir le privilège d'approcher de très près. Tous découvrent la douceur de cette peau caoutchouteuse.
Voilà, c'était au Marineland d'Antibes en 2013, une expérience inoubliable pour certains, mais qui ne sera désormais plus possible en France, puisqu'un arrêté interministériel validé hier interdit la nage et le contact du public avec les dauphins ou les orques. Une avancée logique au vu de nos connaissances grandissantes sur le bien-être animal. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Claude Beata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire spécialisé en médecine du comportement. Quelle a été votre réaction, Claude Beata, à la lecture donc de ces nouvelles règles qui encadrent désormais la captivité des cétacés dans les parcs de loisirs?
Tout ce qui va dans le sens d'une amélioration du bien-être ne peut être qu'accueilli très favorablement. Hein. Quand on connaît l'intelligence et les capacités cérébrales de ces animaux, tout ce qui va dans le sens réellement d'une meilleure qualité de vie pour eux, je l'accueille très volontiers.
Alors, on va citer quelques-unes des mesures adoptées hier dans le texte. Une augmentation de 150% de la taille des bassins, une augmentation des profondeurs minimum, un enrichissement des bassins avec des courants, des vagues et des cascades. C'est un plus, mais est-ce que c'est vraiment significatif pour ces animaux?
Vous savez, on peut penser à ce qui s'est passé à un moment pour les poules, ce qu'on appelle l'éthique du bien-être utilitariste. Une cage de poule, c'était la taille d'une feuille A4, et après des mois de discussion, on est passé à une taille de feuille A4 plus 10%. Pour les dauphins, là, c'est plus 50%, donc c'est bien mieux. Les dauphins, ça peut nager 100 km dans la journée, donc bien évidemment, on n'atteindra jamais cette qualité de vie naturelle, entre guillemets. Attention quand même à pas faire trop de, d'être trop dans un monde idéal. Dans la nature, la vie est très très dangereuse et très douloureuse aussi pour les individus. Là, ils sont dans un milieu qui est beaucoup plus protégé, mais qui évidemment ne peut pas leur apporter les conditions d'un épanouissement total.
Et le contact avec le public avait vraiment des impacts négatifs sur ces animaux, pardon?
Ah, je crois que le contact avec le public, c'était très très tu, très très secret, mais il y avait de temps en temps des actions agressives de la part des dauphins, comme de tout animal qui peut d'un seul coup avoir une action agressive et qu'il y avait réellement du danger à certains moments. Et c'était très peu prévisible pour les soigneurs, parce que d'un seul coup, un dauphin prenait quelqu'un en mauvaise part et pouvait l'attaquer, et là ça pouvait être très dangereux.
On a entendu parler aussi de cas extrêmes, des orques qui attaquent leurs dresseurs, parfois les tuent. Est-ce que vraiment la captivité peut justifier ce genre de comportement chez les animaux?
Je crois qu'il faut faire la part entre deux choses vraiment très différentes. La captivité, elle entraîne une souffrance psychologique. On peut parler vraiment de mal-être, hein, d'atteinte au bien-être, puisqu'elle ne permet pas d'exprimer la cinquième liberté du bien-être, qui est l'expression des comportements naturels. Et donc, elle va induire de l'anxiété, elle va induire des états d'anxiété, des états de dépression qui sont évidents. On le voit par exemple chez les orques avec la fameuse nageoire caudale qui se replie, qui montre que ces animaux ne sont pas en équilibre. C'est totalement différent, par exemple, de ce qui s'est passé avec Tilikum qui était un orque qui a provoqué plusieurs accidents mortels et qui, lui, avait des épisodes que je vais qualifier, pour aller vite, de folie, entre guillemets, qui étaient des épisodes vraiment de psychopathologie extrême, de troubles psychiatriques extrêmes.
Oui, mais on peut vraiment étudier la psychologie d'un animal comme celui-là, Claude Beata ?
On connaît beaucoup de choses sur eux. Il y a des équipes, il y a notamment une équipe australienne qui suit les dauphins dans la baie de Shark Bay depuis plus de 25 ans. Donc on commence à savoir pas mal de choses sur eux, sur leur capacité, et c'est amusant dans le contexte actuel, à nouer des groupes politiques, à faire de la politique, à faire des jugements. Mmh. Donc ils ont vraiment des capacités cérébrales qui sont extrêmement développées. Et comment, ayant ces capacités-là, n'auraient-ils pas aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire la possibilité du trouble psychiatrique ?
On fait beaucoup d'avancées scientifiques sur les capacités cognitives des animaux. Est-ce que la captivité et ces parcs de loisirs sont encore défendables scientifiquement aujourd'hui ?
Je crois qu'on va vers leur extinction. J'espère pas des dauphins, mais des parcs. Et on les regrettera pas mais ils ont correspondu aussi à une époque et ils ont permis de s'approcher de ces animaux et de pouvoir mesurer leur intelligence. Je crois qu'il faut faire là aussi la part entre quelque chose qui devient de moins en moins admissible. On peut pas priver ces animaux de liberté. Tous ces animaux qui sont là sont nés en captivité, hein, donc ils n'ont pas connu autre chose. Ça pose d'ailleurs le problème de leur avenir, hein. Qu'est-ce qu'ils deviendraient si aujourd'hui on ferme les parcs? Et puis il faut faire la part donc cette philosophie qui doit disparaître et vraiment les efforts faits par les soigneurs, par les gens qui s'en occupent, qui sont généralement dans une passion totale pour ces animaux.
Mais les soigneurs relatent des relations très fortes, on pourrait presque dire du bonheur de la part de ces animaux. Est-ce que c'est réellement du bonheur dont on peut parler ?
Pour moi, l'attachement est un élément majeur pour beaucoup de mammifères. Et chez ces animaux très intelligents, l'intelligence n'empêche pas l'attachement, au contraire. Et il y a donc des relations puissantes qui se nouent, des relations d'affection, d'amitié entre les soigneurs qui travaillent avec eux. Et je pense que cela, en tout cas, ça c'est un élément de leur bien-être. Mais évidemment, ça ne suffit pas.
Oui, Claude Beata, il y a quand même des générations d'enfants qui ont appris à prendre contact justement avec ces animaux, hein, au travers de ces parcs. Mmh. Est-ce qu'on peut pas déplorer justement la disparition quand même de ces lieux qui sont un premier contact pour ces plus jeunes ?
C'est vraiment quelque chose de très compliqué comme question. Je crois qu'il faut, en tout cas, il faut qu'on trouve le moyen de ne pas perdre contact avec ces espèces. J'entends la plainte sur le bien-être et elle me paraît tout à fait normale. Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, d'enfants qui ont été totalement bouleversés pour toute leur vie par le contact. Et rien ne remplace réellement le contact. On entendait dans votre reportage des personnes qui touchent cette peau particulière. Alors après, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de bien-être. Mais il faut qu'on trouve le moyen de ne pas perdre contact avec ces espèces et qu'on ne laisse pas uniquement certains qui seraient autorisés à aller les voir pendant que la masse du peuple, eux, ne pourraient plus avoir contact avec ces espèces qui sont extraordinaires.
Alors, pour en revenir sur l'arrêté validé hier, il y a un point qui signe quand même la fin pure et simple de la captivité des orques, c'est qu'il sera désormais interdit de les reproduire en captivité. Il est déjà interdit de les capturer. On imagine quand même qu'à terme, il n'y a plus de possibilité de montrer ces animaux au public.
C'est ça, on perd cette possibilité-là, mais ce qui m'a amusé, entre guillemets, dans cet arrêté, c'est que la reproduction des orques est interdite, mais pas celle des dauphins.
Il y a une différence ?
On met une limite. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on met cette limite-là. Peut-être une question, alors, encore de taille de bassin, où effectivement on n'arrivera jamais à avoir la taille des bassins qu'il faut pour les orques. Mais j'ai trouvé ça étonnant. Ça, on fait plaisir sans doute à certains et pas à d'autres. Mais pourquoi faire cette différence entre le grand dauphin et l'orque ? J'avoue que j'ai pas de réponse scientifique à ça.
Merci en tout cas pour votre éclairage, Claude Beata, donc suite
Merci
à cet
à
arrêté interministériel qui a donc validé hier l'interdiction de la nage et du contact du public avec dauphins et orques. Et bonne journée à vous. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, du nouveau sur le front de la recherche sur l'eczéma, cette affection commune de la peau qui touche 10% quand même des adultes, 20% des enfants. Une équipe anglaise de Newcastle vient de découvrir que plusieurs protéines clés dans la réponse cutanée au stress ou à l'inflammation étaient manquantes chez les personnes eczémateuses. Une nouveauté qui devrait permettre à terme de s'attaquer aux racines du problème au lieu seulement d'en traiter les symptômes comme c'est le cas aujourd'hui. Chez les fourmis, les princesses sentent bon dès lors qu'elles sont dans l'œuf. Une équipe de chercheurs indiens vient en effet de démontrer que ce sont les phéromones dégagées par les larves de fourmis en train de se différencier en reines qui permet aux ouvrières de les séparer du reste des autres œufs plus communs et de les chouchouter d'autant plus. Plus fort encore, si une larve venait à se différencier en reine à la mauvaise saison, en hiver par exemple, lorsque les ressources viennent à manquer, eh bien des morsures de la part de ces nounous peuvent stopper immédiatement le processus de différenciation, la fourmi se développe alors comme une simple ouvrière. Et puis pour terminer, nous vous l'avions promise dans la une la semaine dernière, la NASA l'a publié hier, la vidéo du passage de la sonde Cassini entre Saturne et ses anneaux. Ces images en noir et blanc, malgré leur rendu un peu austère, sont exceptionnelles. Ce sont les images les plus proches de la surface de Saturne que nous n'avons jamais vues, et aussi la plus nette vision des ouragans géants qui naissent à sa surface. Les ingénieurs expliquent que la position de sécurité dans laquelle se met la sonde au moment de son passage et sa vitesse empêche une résolution maximale des images qui sont visibles sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, au mot détritus, au cœur de notre dossier dans un instant. This was her song. Thank you. Williams et Vilaine avec Her Song.
La tête carrée sur France Inter.
Homo Detritus, c'est donc un livre qui sort aux éditions du Seuil. C'est une critique de la société du déchet. Et pour en parler, je suis avec son auteur, Baptiste Mont-Saint-Jean. Vous êtes chercheur en socio-anthropologie à l'IFRIS. C'est l'Institut francilien Recherche, Innovation, Société. Et vous avez participé également au conseil scientifique de cette exposition que les Marseillais et ceux de la région peuvent venir voir au MUCEM. Ça s'appelle Vie d'ordure. C'est à voir jusqu'au 14 août 2017. Qu'est-ce qu'on y voit d'ailleurs en gros dans l'exposition des poubelles
On y voit pas mal de choses. Là, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est les enquêtes collectes qui ont été réalisé par l'équipe de chercheurs attachés à cette exposition, qui sont en gros répartis aux quatre coins de la Méditerranée pour aller récolter sur place des éléments qu'ils ont ramenés au sein de l'exposition.
Pour montrer ce qu'on trouve la mer.
À la fois, non pas ce qu'on trouve dans la mer, pour l'essentiel des enquêtes collectes, c'était des phénomènes qui sont essentiellement urbains, je pense aux chaînes de traitement des déchets plastiques, en Égypte par exemple, où on observe de l'intérieur, la façon dont les collecteurs de déchets, les récupérateurs, viennent participer en plein à la gestion urbaine des déchets, notamment au Caire.
Donc c'est à voir au MUCEM.
C'est à voir au MUCEM.
En ce moment, jusqu'au mois d'août, avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà, avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé Lata, qui est déjà un message sur le tri sélectif, je vous le transmettrai dans quelques instants. En tout cas, lorsqu'on lit votre livre, Baptiste Mont-Saint-Jean, qui raconte, il faut dire, une grande histoire des déchets depuis la sédentarisation des hommes jusqu'à aujourd'hui, on se demande quand même comment on a pu en arriver là, parce que avec cette poubelle géante qui est notre planète, on est en plein dans une crise du déchet, c'est bien ce que vous nous racontez.
Alors, est-ce qu'on est actuellement dans une crise de déchets? Depuis combien de temps on y est? La question, je crois qu'il faut la laisser ouverte. Ce sur quoi j'insiste dans le livre, en tous les cas, c'est qu'il y a eu un tournant moderne dans la question de la gestion du déchet. On peut dire très simplement que avant la modernité, avant l'industrialisation, le déchet n'existe pas. Ça, je reprends une expression de l'invention du déchet de Sabine Barle, une historienne qui a été importante dans le champ de la recherche sur les déchets, pour montrer que jusqu'à la fin du 19e siècle, en gros, les productions détritiques des villes étaient intégrées dans une forme de synergie entre les villes et les campagnes. On pense essentiellement aux déchets organiques qui, à l'époque, étaient l'essentiel du gisement détritique des villes et qui étaient systématiquement ou presque récupérés par les paysans périurbains pour constituer de l'engrais organique. Et notamment avec l'apparition des engrais chimiques à cette même période, fin 19e, on voit que ces quantités de déchets organiques ne trouvent plus d'exutoire, ne trouvent plus de fonction et tendent à devenir des choses abandonnées. Et c'est à ce moment-là que l'acception moderne du déchet comme quantité de matière abandonnée apparaît. Et apparaît aussi tout un tas de systèmes techniques afférents à cette définition du déchet, et notamment la décharge qu'on connaît très bien aujourd'hui et qui est peut-être le symbole de cette crise du déchet, s'il en est.
Ouais. C'est quoi d'ailleurs la définition du déchet, au fond? S'il faut en donner une, elle reste ouverte, je crois.
Alors en France, la définition juridique, elle date des années 70, 75 exactement, et c'est toute chose que l'on destine à l'abandon, pour le dire très simplement. Les définitions européennes se reprennent à peu près les mêmes termes. Mmh. Et c'est cette dimension d'abandon, de déléguer à un tiers cette quantité de matière qui, moi, me semble intéressante de questionner du point de vue de sa généalogie. À partir de quand cette fonction d'abandon, cette dimension d'abandon est déléguée non plus aux habitants, aux acteurs de la ville, mais à des sociétés tierces, à un service public. Et c'est vrai que si on observe la fin du 19e siècle, l'apparition des poubelles, puisqu'on peut dire, pour faire un clin d'œil au titre de ce livre, que la poubelle, c'est un peu le berceau d'Homo Detritus. Avant la poubelle, les déchets circulent. Après la poubelle, ils sont enfermés, stockés. Et on cherche surtout à ne plus les voir, à les faire disparaître.
Alors, cette histoire des déchets, on peut en prendre évidemment des pans un petit peu partout. Et pour l'illustrer, on va au 18e siècle avec l'histoire du parfum, le parfum adapté au cinéma, l'histoire d'un meurtrier. C'était en 2006.
À l'époque que nous évoquons, il régnait dans les villes une puanteur inconcevable aux hommes et femmes modernes que nous sommes. Naturellement, cette puanteur battait des records à Paris, car c'était la plus grande ville d'Europe. Et nulle part dans Paris, cette puanteur n'était plus immonde qu'au sein du marché aux poissons.
Et voilà, je vais t'en chercher d'autres.
Ce fut là, dans l'endroit le plus putride de tout le royaume, que Jean-Baptiste vit le jour, le 17 juillet 1738.
Voilà Baptiste Mont-Saint-Jean avec cette histoire donc dans le film Le Parfum. Est-ce que Paris à l'époque, justement, la gestion des déchets est déjà une question posée à la ville?
Oh, il y a une série de lettres patentes du roi dès la toute fin du Moyen Âge où on tente de légaliser, de mettre en loi la question de la gestion des déchets.
Ouais, parce qu'on a vraiment ces villes suffocantes. Hein. Vous les décrivez d'ailleurs aussi au Moyen Âge, mais c'est exactement la même chose.
Oui, hein. Alors la suffocation de la ville, on peut aussi poser la question du point de vue de la perception. Hein. Je pense aux travaux d'Alain Corbin, notamment le Miasme et la Jonquille, c'est un travail célèbre sur la question de la perception de olfactive, justement, dans l'espace urbain. Et que peut-être que jusqu'à une période assez récente, finalement, la puanteur était non pas perçue comme un signe de dégradation ou comme un problème, mais plutôt comme un signe de richesse. Là, je pense aux travaux d'André Guilherme, qui associe cette puanteur à une richesse pour la ville, puisque finalement, une ville où se putréfient les matières organiques...
Il y a de l'opulence, quoi.
Il y a une forme, ouais, d'opulence, et très concrètement, pour la production de salpêtre, qui sert à faire la poudre à canon, cette puanteur est un signe de pouvoir et de puissance. Le tas de fumier aussi, devant l'habitation du paysan constitue un signe extérieur de sa richesse. Plus le tas est grand, plus, d'une certaine façon, l'agriculteur a des moyens, a une activité importante.
Ouais, mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on fait face à des épisodes d'épidémie, évidemment. Absolument. La peste, le choléra. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à prendre en charge ces problèmes d'insalubrité, alors?
Oui, l'insalubrité, disons que, là encore, je vous renvoie à des travaux d'historien. Moi, je ne suis pas historien de formation. Hein. Je pense à Philippe Leget sur la pollution au Moyen-Âge, qui, là encore... décrit parfaitement bien, notamment dans les activités liées à la tannerie, hein, où une odeur insupportable émerge de ces villes, et où effectivement la société bourgeoise, en l'occurrence, cherche d'emblée à légiférer, à organiser, à encadrer quelque chose du caractère insupportable de la prolifération des déchets. Ouais. Mais jusqu'à la fin du 19e, et en gros jusqu'au décret poubelle pour ce qui est du cas parisien.
C'est ça. Au 19e, là, en l'occurrence. Voilà. Alors, on s'arrête un tout petit peu encore sur cette histoire parce qu'elle est amusante. Il y a plein de choses très rafraîchissantes, si je puis dire, que vous racontez dans le livre, avant d'arriver justement à l'histoire contemporaine. Alors, au 17e siècle, on s'intéresse, vous dites, à l'étude des excréments. Il y a par exemple des ouvrages qui paraissent, hein, La pharmacie de la merde, c'est-à-dire comment presque toutes les maladies, même les plus graves, peuvent être guéris au moyen de la merde et de l'urine.
Oui, on peut plus banalement penser à la prognose, hein, l'étude de l'excrément comme une étape indispensable du diagnostic médical. C'est finalement cette relation au détritique, à l'excrémentiel, est devenue un tabou progressivement. Mais c'est une chose assez banale jusqu'à assez récemment, finalement. Ouais.
Alors justement, à Paris, là aussi, alors beaucoup plus récemment, je crois que c'est au 19e, on recycle les excréments, les contenus des fosses d'aisance, en tout cas, pour précisément les engrais biologiques.
Absolument. Et ça, c'est un élément important dans la mutation du métabolisme urbain au cours du 19e siècle, c'est que les déchets produits par la ville à l'époque sont essentiellement organiques. Boue, vidange urbaine, excréments, effectivement. Et tout cela est, d'une façon ou d'une autre, traité pour le bien de l'agriculture périurbaine. Il y a une vraie synergie, hein, je reprends l'expression de Sabine Barle, entre ville et immédiate périphérie. On a besoin, d'une certaine façon, de produire ce détritique-là pour alimenter... la production agricole périurbaine. Alors ensuite, il y a un phénomène démographique qui se joue tout au long du 19e, qui est évident, hein, l'accroissement urbain et d'une certaine façon une rupture du métabolisme dès lors que ces excréments, cette production détritique n'est plus réamendée dans les sols.
Petite histoire de nos ordures, justement, c'est un documentaire qui était sorti en 2011.
Paris n'a pas la réputation d'une ville propre. Lutèce signifiait boue en latin. Et on disait, se crotter à Paris, c'est indélébile. Pourtant, l'eau lavait abondamment les rues et on a inventé ici la poubelle. L'esprit frondeur des Parisiens serait-il si fort ?
Voilà, encore un épisode du 19e, le préfet poubelle. Donc ces arrêtés, en fait, c'est quoi? C'est vraiment la création de l'objet ou comment ça se passe?
Alors, on a, avant le décret poubelle, tenté de légiférer. Je pense notamment à la ville de Caen, qui est pionnière en France, en tous les cas, pour la création de réceptacles destinés à recueillir les ordures ménagères. Si on retient poubelle, c'est qu'effectivement, le préfet a donné le nom à l'objet. À l'époque, dans les décrets, on décrit très précisément la forme que doivent prendre ces objets-là. On n'y met pas de couvercle au départ, et c'est assez intéressant.
Ouais.
Les poubelles sont carrées, parce qu'elles peuvent être entassées, empilées les unes sur les autres, c'est plus pratique. Elles sont métalliques. Et progressivement, cet objet technique de la poubelle va se raffiner et notamment au début du 20e, 1910 en gros, on y ajoute un couvercle pour que précisément ces déchets...
Grande avancée autour de la poubelle.
On éloigne un peu plus encore de la vue, des odeurs et de la perception générale ces objets-là qui font tache dans l'espace urbain qui, à cette époque, est très largement... on va dire influencé, cette organisation de la ville, cette urbanisme, par l'idéologie hygiéniste, qui, d'une façon ou d'une autre, tente à associer le déchet à une maladie. Là où on peut interroger cette définition-là, plutôt en faire du déchet un symptôme.
Ouais. D'où la nécessité de construire des modèles de salubrité à ce moment-là, dans cette période très hygiéniste, précisément, à laquelle appartenait donc ce fameux monsieur poubelle. À partir de quand apparaissent les décharges, justement, dans cette histoire des déchets?
Et de façon assez intéressante, à la même époque. La définition de la décharge contrôlée, on l'hérite de la Grande-Bretagne, les sanitary landfills, qui apparaissent effectivement entre les années 10 et les années 20, et où, de cette image qu'on a tous de la décharge sauvage, on essaye de penser un dispositif technique qui assure la maîtrise, précisément, des objets, des quantités de matière qu'on y dépose. Le principe est assez simple, c'est une sorte de millefeuille isolée du reste du monde, et on va alterner une couche de déchets, une couche de terre, et ce jusqu'à saturation de cet espace détritique. La question, c'est savoir ce qui est réellement contrôlé dans cet espace de décharge dite contrôlée. Et ça, un certain nombre d'événements plus récents, pour le coup, nous montrent que la dimension de contrôle liée à ces décharges, elle est discutable, notamment dans les premières tentatives qui ont lieu en France dans la suite de ces années-là.
Alors c'est là qu'arrivent aussi les incinérateurs, comme une nouvelle option aussi à la prise en charge des déchets?
Absolument. Les incinérateurs, on brûle ces déchets depuis très longtemps. Là encore, dater l'origine de cette pratique-là, c'est, je pense, assez hasardeux. Néanmoins, les dispositifs techniques d'incinération des déchets apparaissent à ce même moment de la modernité où, d'une certaine façon, la poubelle déborde déjà.
Ouais.
Et il faut, d'une façon ou d'une autre, penser des exutoires nouveaux.
Ouais.
L'incinération est d'emblée pensée comme une solution pour alimenter des réseaux de chaleur. Mais très vite, là encore, les quantités de matière en jeu génèrent des impasses techniques et on doit incinérer à la pelle pour éviter d'être confronté à une saturation matérielle des décharges.
Et puis, on va utiliser aussi la mer et les océans jusqu'aux années 70, ce qui nous paraît complètement hallucinant aujourd'hui, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'on avait le droit de rejeter les déchets dans l'eau.
Oui, alors c'est le tout à la mer, c'est une sorte de pendant au tout au trou, pour reprendre l'expression du monde industriel du déchet. Le tout au trou, c'est ce modèle de la décharge. Le tout à la mer, c'est d'une façon ou d'une autre le symptôme du marin qui, une fois qu'il est sur son bateau, a tendance à mettre par-dessus bord ce qui ne lui est plus utile. Mais les communes, je pense à New York notamment, ont largement utiliser la mer comme un dépotoir géant, y compris pour des déchets dont on n'imagine pas la toxicité à l'époque, ou on imagine, mais on espère que par des effets de dilution, la radioactivité notamment serait diffusée dans l'espace océanique. Et c'est vrai que il faut attendre les années 70 pour qu'un protocole international régule, du moins, cette utilisation de l'espace océanique comme un espace exutoire.
Ce qui marque au fond le XXe siècle, c'est d'abord effectivement cette gestion des déchets, mais aussi le fait de ne plus vouloir les voir physiquement. C'est-à-dire qu'on va enfouir, on va les mettre loin des villes. Comment on a fait pendant la période des deux guerres mondiales par rapport justement à cette gestion? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors dans le fil, le continuum historique que j'essaie de raconter dans ce livre, effectivement, les deux guerres constituent des parenthèses par rapport à ce mouvement de disparition et de dissimulation, s'il en est, du déchet. L'économie de subsistance qu'impose un état de guerre impose précisément une relation différente avec les choses qu'on destine au rebut. Il y a l'historienne Susan Strasser notamment qui parle des scrap drives, qui étaient ces collectes liées à la propagande américaine pour soutenir l'effort de guerre depuis les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et où les ménagères étaient invitées à collecter dans leur foyer ce qui n'était plus vraiment utile, et contribuer à apporter des quantités de métaux, des quantités de matières utiles à l'effort de guerre précisément. Or, ce qui est démontré par Susan Strasser de façon assez habile, c'est que même cet effort de guerre-là n'a pas fondamentalement servi à l'armée américaine à construire des obus, etc. Mmh. Mais il s'agissait plutôt de fédérer une population autour de ce sentiment qu'il fallait prendre soin de ce qui était là, de ce qui restait.
Et les années 70, on va en parler avec vous dans un instant. C'est le grand tournant hein, environnemental qui va marquer vraiment un changement dans la gestion, la prise en charge de ces déchets. C'est l'objet de votre livre Homo Detritus, Baptiste Mont-Saint-Jean. Vous êtes notre invité cet après-midi. Il y a beaucoup de courriels qui arrivent.
Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore? Une femme quand je m'endors, la mienne, au lit jusqu'à l'aurore. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle, la barre, et moi qui perds la boule. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul, la mienne, tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore, qui m'aime, qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours, et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore, et moi qui rétrécis. Vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. Moins bien que demain. Moins bien que demain.
Une femme, la voix d'Albin de la Simone sur France Inter, Baptiste Mont-Saint-Jean est notre invité avec Homo Detritus, donc cet ouvrage qui paraît aux éditions du Seuil. Avec, donc on le disait tout à l'heure, les années 70, c'est le vrai tournant. Alors il y a le choc pétrolier évidemment, mais il y a un enjeu qui apparaît avec la gestion de ces déchets.
Alors, on parle bien souvent d'un tournant environnemental effectivement autour des années 70 et de fait, on associe les années 70 à une sorte de prise de conscience globale des risques et des dangers liés à la catastrophe écologique en cours. Ouais. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que cette prise de conscience, elle est plus ancienne. Déjà, des mouvements de résistance à cette normalisation, à cette banalisation du déchet apparaissent au cours du 19e siècle, notamment dans la corporation assez puissante des chiffonniers. Et puis tout au long du 20e également, auprès même des consommateurs, j'ai envie de dire, les consommateurs ne sont pas prêts et a priori mûrs pour jeter à volo tout ce qu'ils font transiter par leur maison. Il a fallu d'une façon ou d'une autre éduquer, apprendre à jeter. Mais de fait, dans les années 70, C'est là qu'apparaît une définition légale du déchet. Mmh. C'est dans les années 70 aussi qu'une industrie se formalise, se structure autour de cette mission de prendre le relais des collectivités publiques pour, de la collecte jusqu'à la valorisation des déchets, prendre la question de la gestion des déchets en charge.
Est-ce que c'est le verdissement, le greenwashing justement, qui apparaît aussi à cette époque ?
Ce que j'essaie de démontrer, c'est la façon dont un pan de l'industrie s'est servi des arguments environnementaux pour renforcer leur pouvoir et leurs pratiques. Pour le dire très simplement, dans les années 70, et surtout après, je pense aux années 80, l'apparition du tri sélectif, l'argument environnemental a été une solution pour les industriels pour associer le fait de bien jeter à une action de protection de la planète. La question que je pose dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'on cherche réellement à préserver lorsqu'on jette bien ? Est-ce que c'est pas plutôt, d'une façon ou d'une autre, le système social dans lequel on vit, les modes de consommation, qui peuvent être, eux, préservés grâce à ces pratiques d'organisation du tri.
On va écouter justement un extrait du journal de 13h en 1972 qui abordait la question des emballages perdus.
Nous savons de façon certaine, puisque des calculs ont été faits, que lorsqu'on est passé de l'emballage consigné à l'emballage perdu, ça a coûté de l'argent et que cet argent, c'est le consommateur qui l'a payé. Avec les eaux minérales, on a cherché un truc pour que ça ne se voit pas, l'augmentation de prix. Et le truc était de partir d'une bouteille consignée d'un litre et de passer à une bouteille perdue d'un litre et demi. Quand on fait les calculs, on s'aperçoit que le passage de l'un à l'autre correspond, selon les formes de commerce, à une augmentation de l'ordre de 25, et même un peu plus, de 25% du prix.
Voilà, c'était malin, finalement.
La consigne, c'était la bonne solution.
Absolument. Alors justement, sur cette question des emballages, il y a une question d'Adrien qui nous dit ceci. Est-ce qu'il ne faudrait pas une législation stricte et contraignante sur les déchets qui pourrait interdire justement les suremballages plastiques non recyclables des produits alimentaires souvent inutiles, comme ça s'est fait pour les sachets de course maintenant biodégradables?
Alors, il existe une législation, on appelle ça la filière REP, responsabilité élargie du producteur, qui est effectivement destinée à organiser et à financer la filière de gestion des déchets par les producteurs d'emballages eux-mêmes. Donc la législation est stricte, elle n'est certainement pas assez, on peut aller bien plus loin, et effectivement, ce qu'on a vu à l'échelle européenne en 2015 avec cette directive sur la régulation des sacs dits à usage unique est une piste intéressante. Toutefois, il faut rester, je pense, assez vigilant. Quels sont les effets d'une régulation de cet ordre-là? La conséquence directe pour la régulation des sacs plastiques, c'est d'une façon ou d'une autre une augmentation de la consommation d'autres formes de polyéthylène, en l'occurrence des polyéthylènes plus épais, des plus épais, censément réutilisables, mais qui ne le sont pas toujours. Alors, effectivement, l'axe de la politique publique, l'axe de la régulation, cette perspective-là est de facto une perspective à suivre, mais je pense qu'elle peut aller bien plus loin.
Ouais, alors justement, il y a un concept extrêmement important qui va aussi apparaître là dans les années 80, c'est cette notion d'éco-citoyen, parce que là, on va vraiment faire appel aux citoyens pour mettre la main à la pâte, et puis aussi moraliser un peu toute cette question des déchets quand même.
Disons que l'éco-citoyenneté, c'est un concept un peu slogan qui apparaît effectivement dans les années 70-80 et qui consiste à associer la dimension individuelle, les pratiques individuelles à des actes potentiels de protection de l'environnement. Ça va de fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents à éteindre la lumière quand on sonne d'une pièce. Tout ça, c'est
des petits gestes.
Une politique des petits gestes qui semble être de l'ordre du bon sens. Mais
et qui trouvent leur place, visiblement, dans ce dispositif.
Et qui trouvent tout à fait leur place dans ce dispositif. La question que je cherche à poser, moi, c'est dans quelle mesure cette politique des petits gestes était une façon pour faire passer au second plan la question des racines politiques, techniques, économiques, liées au phénomène que, précisément, ces petits gestes sont censés résoudre. J'ai le sentiment qu'il y a eu là une forme de stratégie, de dénégation des racines, une forme de mise au second plan, pour leur dire de la même façon, de cet enjeu épineux. Des causes politiques, des choix qui ont été faits.
Ouais. En tout cas, la vertu, ça a été de faire entrer l'écologie dans les maisons, quand même.
Absolument. Alors,
il a fallu vraiment s'organiser aussi pour trier nos déchets.
La question qui se pose, c'est de quelle écologie s'agit-il ? On peut dire que d'une façon ou d'une autre, le déchet a été le cheval de Troie de l'écologie au quotidien. Une façon de faire rentrer dans la maison, effectivement, cette question écologique. Peut-être que c'est une certaine écologie qui envisageait sur le mode de la croissance verte, sur le mode de la consommation durable, pour utiliser d'autres slogans, de continuer à faire comme avant, ou presque comme avant, tout en essayant, d'une façon ou d'une autre, de préserver la planète. Ce que j'essaie de démontrer, là encore, c'est que cette écologie-là a pris le dessus sur peut-être une tendance plus critique, plus radicale. Je pense aux travaux d'Ivan Illich, je pense aux travaux de Jacques Ellul, qui très largement ont participé à questionner les racines techniques, industrielles de la crise écologique.
Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, malgré toutes ces tentatives d'élimination, ben, les déchets ne cessent de revenir, hein, toujours, encore et inlassablement. Il y a cette question de Marion qui nous dit ceci. J'ai entendu dire que les déchets triés dans la filière de tri de la poubelle jaune en France n'étaient pas ou très peu recyclés à cause de la diversité des plastiques utilisés. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi une telle hypocrisie? Et si c'est faux, qu'en est-il vraiment? Alors, c'est vrai qu'on entend dire ça, effectivement.
C'est vrai que le recyclage des plastiques est un vrai casse-tête, que je ne sortirai pas de chiffres immédiatement, mais qu'il est possible d'aller sur Internet trouver les chiffres municipaux qui sont publics et officiels pour comprendre comment s'organise cette filière du recyclage des déchets. Pour ce qui est des plastiques, effectivement, la question, c'est la pureté d'un gisement. Il faut réussir à avoir des plastiques du même type, les mêmes formes de polymères, pour parvenir à les recycler, effectivement. Et la plupart du temps, on n'y arrive pas. Le tri sur chaîne de tri industrielle permet de séparer différentes familles de plastique, mais de là arriver à un gisement pur, puisque c'est l'expression consacrée, c'est très rare. Donc effectivement, on estime que plus de la moitié des déchets mis dans la poubelle jaune sont effectivement incinérés. Et la France a effectivement beaucoup de progrès à faire là-dessus.
La question du tri et du recyclage, évidemment, c'est une question qui intéresse la planète entière. Un exemple sur le recyclage des déchets à Bombay, c'est un reportage qui date de 2004.
Tout ce que Mumbai produit de déchets est transformé ici, dans le quartier des recycleurs. En Inde, on recycle la moitié du plastique. C'est 4 fois plus qu'en France. Chauffé, broyé, transformé en spaghettis, le plastique reprendra vie sous d'autres formes. Et des produits recyclés, on les retrouve sur tous les marchés de Mumbai. Bassines, panières, jouets, boîtes en tout genre, c'est bon pour l'environnement et pour le porte-monnaie.
Ça, c'est le recyclé, et celui-là, l'original. Il coûte 20 roupies, l'autre 8 seulement. C'est pour un usage similaire. Le recyclé, mes clientes l'utilisent pour mettre leurs produits vaisselle. C'est un compromis. Alors pourquoi dépenser 20 roupies pour ça?
Voilà, Baptiste Mont-Saint-Jean, il y a une économie à l'échelle mondiale autour justement du recyclage.
Oui, alors une économie, il y a des économies. Ouais. Hein, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de modèle unique. Il y a peut-être un modèle dominant qui est effectivement le modèle industriel de collecte par le mode du tri sélectif. Mais il existe des modes alternatifs, pour le dire comme ça, de gestion du gisement détritique. Et en Inde, mais également, je parlais tout à l'heure de l'Égypte. Au Brésil, en Argentine, tout un tas de récupérateurs de rue viennent participer en plein à cette économie. Peut-être qu'un des écueils dans lesquels on pourrait tomber, c'est d'opposer ce monde de l'informel au monde du formel. Et que ce qui est intéressant de penser, c'est les espaces d'articulation entre ces deux économies ou ces deux modèles économiques. C'est un espace de lutte, de conflictualité évidente. Les récupérateurs de déchets tendent à s'organiser en coopérative, en syndicat, pour faire face à certains grands groupes industriels qui auraient tendance à vouloir utiliser l'intelligence et la fertilité de ces modes de gestion vernaculaire pour normaliser et mettre en place un système de technique moderne, on va dire comme ça, de développement.
Alors le plastique, vous revenez longuement dans ce livre, vous nous parlez par exemple de ces fameux continents de plastique qui n'existent pas réellement d'ailleurs, mais dont l'image a frappé vraiment les consciences. Ça a beaucoup servi d'ailleurs à la prise en charge quand même de cette question et de ce problème. Il y a ce mail d'Inès qui nous dit ceci, on est de plus en plus nombreux à nous intéresser au mouvement zéro déchet et à en appliquer les principes dans notre vie quotidienne. Quel dommage que cette question tellement liée à l'écologie et à une nouvelle façon de consommer soit totalement absente l'attente de la campagne présidentielle. Alors c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure en antenne, hein, vous étiez assez consterné par le manque de discussion et aucune d'ailleurs sur la question de l'environnement hier, sur la question du débat. Mais effectivement, toutes les initiatives alternatives, elles sont intéressantes. Et alors ce concept zéro déchet, alors il existe à Paris par exemple?
Oui, bien sûr. Alors il y a une association en France qui s'appelle Zero Waste, qui anciennement s'appelait le CNID, le Centre National Indépendant d'Information sur les Déchets, et un mouvement à l'échelle européenne qui s'appelle Zero Waste Europe, qui est inscrit au registre de transparence de l'Union européenne et qui est un lobby parmi d'autres, mais qui défend l'idée selon laquelle les collectivités publiques peuvent récupérer, reprendre la main sur la gestion de leurs déchets. Le mouvement Zero Waste, moi, me passionne, m'intéresse énormément. Je suis simplement prudent vis-à-vis des perspectives. Il y a une certaine mode du zéro déchet qui émerge aujourd'hui et j'espère, en un sens, que cette mode va devenir un mouvement social.
Ouais. C'est quoi, c'est une forme de résistance aux déchets, justement, ou pas?
Oh, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de réinventer son quotidien, son rapport avec la consommation. Et que si on pense le déchet de façon séparée de ses façons de vivre, d'habiter, de consommer précisément, alors on passe à côté de ce que le zéro déchet peut amener au quotidien.
Comment ça se concrétise? Alors citez-nous, parce que vous avez étudié, et effectivement cette question vous passionne, quels sont les exemples qui illustrent ces initiatives alternatives là pour la gestion de ces déchets?
Moi j'insisterais surtout sur une chose, sur la question du déchet organique. Le fait de faire du compost à la maison, même en espace urbain, moi, me semble être une façon extrêmement intéressante de réduire ses déchets.
Il y a le lombricompostage.
Le lombricompostage, c'est ça, par exemple. Une façon assez ludique, notamment quand on a des enfants, d'expérimenter, de mettre en pratique les cycles du vivant, les cycles du carbone, là, en l'occurrence. Donner à manger à ses lombrics, c'est plus exactement produire du déchet. C'est fabriquer, aider des lombrics à fabriquer un jus de compost, puis un compost qui peut être amendé, là encore, dans les plantes vertes de la maison. Et pourquoi pas, si on a une copropriété dans le jardin de l'immeuble, ou si on est dans un pavillon, encore mieux, dans le jardin tout court.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, au fond? C'est quoi la clé du succès sur cette gestion particulière, alors? C'est qu'on est producteur d'un déchet, et finalement, on va le traiter à l'endroit où on produit ce déchet?
La clé, là encore, c'est très difficile de répondre comme ça. J'ai l'impression que l'enjeu, c'est d'y mettre les mains, de s'y confronter, d'essayer de non plus faire du déchet...
Et du déni,
précisément. De non plus avoir une relation au déchet sur le mode de la maladie, mais précisément sur le mode du symptôme, sur le mode peut-être d'un élément du monde parmi d'autres avec lesquels on peut faire des choses.
Alors, vous parlez d'un phénomène qui s'appelle le Freegans. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement?
Ah, le mouvement Freegans, c'est un mouvement qui commence à essaimer, là encore, et qui est très intéressant, puisque c'est tout un tas d'individus, de groupes sociaux qui se sont pris pour mission ou pour intérêt de faire de leurs poubelles des garde-manger. Notamment autour de la mise au rebut des invendus alimentaires dans les supermarchés.
Donc il y a des cantines participatives, par exemple,
je pense,
qui utilisent ce principe.
Le Freegan Pony, à Paris, effectivement, a ouvert il y a peu de temps, a été réorganisé grâce à un soutien de la ville de Paris et propose effectivement de faire une cuisine sur la base de ces restes alimentaires glanés au marché, glanés à Rungis, là en l'occurrence. Ouais.
Donc c'est vraiment de nouvelles initiatives autour du rapport à la matérialité des choses aussi. Hein. Vous donnez l'exemple des ZAD, clairement aussi.
Oui, alors là c'est sur une réflexion peut-être plus politique sur cet enjeu de reprendre en main la question, alors là, du déchet organique, mais il me semble important d'associer les expérimentations sociales, et celle de la ZAD en fait partie selon moi, comme des espaces où se créent aussi de nouvelles façons de faire monde avec ces déchets. Dans la situation d'autonomie ou d'autarcie dans laquelle les zadistes habitent, ils ont dû mettre en place eux-mêmes des solutions pour gérer leurs déchets. Et très vite est apparue la question de ce qu'on pouvait faire rentrer dans ces espaces-là. Et donc ce qu'on ne pouvait pas traiter sur place ne rentrait pas dans l'espace de la ZAD.
Est-ce qu'on va en venir à bout un jour de cette question des déchets? Parce que quand on regarde cette longue histoire que vous nous racontez, avec aujourd'hui quand même toujours quelques impasses, mais des initiatives qui sont intéressantes. Vous avez l'impression qu'on en voit un peu le bout du tunnel ou pas?
Qu'est-ce que ça signifierait à venir à bout du problème des déchets? C'est un peu la question que j'ai envie de vous reposer en réponse. Moi, j'ai le sentiment que pour venir à bout d'un problème des déchets, c'est plutôt du côté du problème qu'il faut s'intéresser et travailler. Peut-être en essayant, tel des chiffonniers, de redonner une place au quotidien et aussi à l'échelle collective à cette question des traitiques.
C'est l'image que vous prenez justement pour conclure votre ouvrage, hein, la figure du chiffonnier pour imaginer d'autres façons fertiles d'habiter sur notre planète. C'est comme ça que se termine votre ouvrage Homo Detritus, Baptiste Mont-Saint-Jean. C'est aux éditions du Seuil. Et puis donc cette exposition qui est à voir jusqu'au 14 août au Mucem de Marseille et qui s'appelle Vie d'ordure. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
France Inter, 14h54.